Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour, bienvenue dans BFM Business, Tech & Co Business. Voilà, sur BFM Business, on est ensemble pendant une heure pour parler évidemment de numérique. Et vous pouvez nous retrouver en replay, en podcast et puis évidemment sur la chaîne Tech & Co TV, sur les box opérateurs. Dans un instant, on va parler de la filiale numérique du groupe La Poste, Docaposte, qui vient de se lancer dans une acquisition dans le domaine de la santé et qui a de grosses ambitions dans ce domaine. On en parlera avec le PDG de Docaposte. On parlera aussi de l'accélérateur numérique qui fête ses 2 ans. Avec notamment le responsable service PME chez Amazon. Et puis on aura en ligne le patron de Keops Technologies. Alors il devait revendre son entreprise, ça ne s'est pas fait, et justement du coup il relance pas mal de choses, notamment tiens, une plateforme collaborative et une messagerie souveraine. On discutera tout ça avec Nicolas Leroy-Fleuriot, le patron de Keops Technologies. Et puis deuxième partie de cette émission, les Français et la crypto, pourquoi, quel regard portent les Français sur la crypto, ce sera notre baromètre Odoxa. Et puis dernière partie, on a un nouveau partenariat avec le CIGREF, on va parler de la féminisation des métiers du numérique et sur l'urgence à agir. Voilà, c'est pendant une heure, restez avec nous, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Et on démarre avec Olivier Vallée. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Olivier, merci d'être avec nous, PDG de Docaposte. Donc c'est la filiale numérique du groupe La Poste qui va racheter Maincare. Ça c'est l'actualité. Donc un spécialiste numérique des hôpitaux. Alors ils font la télémédecine, coordination des soins, gestion administrative, des ressources humaines. Une boîte quand même qui a été fondée en 1999. Donc belle assise, basée à Bordeaux, 650 personnes, 300 R&D, c'est ça qui vous intéresse, j'imagine aussi, d'avoir toutes ces compétences là, et puis déjà 1000 clients, donc on l'imagine dans les CHU, les CHR. Et votre objectif pour vous, Docaposte, aujourd'hui Docaposte, c'est un peu plus de 825 millions
d'euros.
Oui,
on fait 826 millions d'euros
pour 7000 personnes, et c'est carrément de passer pour cette partie santé qui fait.
Bon, le santé, aujourd'hui, on fait 30 millions d'euros et on a l'ambition de faire 200 millions d'euros très rapidement, puisque voilà. C'est un axe prioritaire.
Un axe fort. Hein. Deuxième plus grosse acquisition de l'histoire de Docaposte. Alors, dites-nous, pourquoi ce secteur de la santé? Quel est le lien? Enfin, comment vous l'accolez au métier de Docaposte, qui, on le rappelle, c'est le coffre-fort numérique, c'est l'identité numérique.
Le positionnement de Docaposte, c'est vraiment autour des services de confiance numérique, hein, avec cette idée toujours que la Poste est un acteur de confiance dans le monde physique, et nous, notre rôle, c'est de prolonger cet acteur de confiance dans le monde numérique. Donc ça, c'est la mission de Docaposte. Donc du coup, on a investi sur beaucoup de services de confiance numérique. Ouais. Donc, comme vous l'avez dit, l'identité, l'authentification, la signature électronique, le coffre-fort. Donc, on a toute cette chaîne de services qui nous permet de construire des services de confiance numérique. Et s'il y a un secteur d'activité dans lequel la donnée est importante et stratégique et où on a besoin d'acteurs de confiance, c'est bien le domaine de la santé. Et donc, c'est là où on en parle suffisamment. Il y a des enjeux majeurs. Et on s'est dit que ça faisait beaucoup de sens de pouvoir donc rentrer en négociation exclusive avec Maincare, qui est en effet un éditeur logiciel qui détient plus de 30% du marché des hôpitaux.
Comme je disais, hein, je le rappelle.
Très grosse société, hein, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires.
150 personnes, voilà.
80 millions d'euros de chiffre d'affaires, un vrai leader. Et on va associer à la fois une société qui est un éditeur logiciel avec des logiciels métiers pour les hôpitaux, avec le savoir-faire d'un Docaposte sur les services de confiance. Et donc la combinaison des deux va permettre de pouvoir créer un champion français au service de l'hôpital, au service des patients et au service de la médecine.
Alors on dit toujours, moi je retiens toujours, c'était le professeur Marisco là, qui était le premier à intégrer le numérique. Il a à Strasbourg, et il m'avait toujours dit un médecin plus un médecin, ça ne fait pas une meilleure médecine, mais un médecin plus un informaticien, ça fait une meilleure médecine. Et alors justement, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir? Parce qu'on sait que cet univers de la santé, alors je le prends très vaste, hein, je ne m'arrête pas sur quelques métiers en particulier, il a du mal à se numériser, il met du temps, parce qu'il y a des silos, parce qu'il y a de la réglementation, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a un état d'esprit différent. Qu'est-ce qui va faire pour vous? Quels sont les atouts pour vous, Olivier Vallée, Docaposte? Vous allez réussir à... Bah, là où d'autres ont du mal.
Déjà, je pense qu'on est dans le secteur de l'hôpital, qui est le monde public. données de santé, données sensibles. Je pense que le fait, et d'ailleurs on a des retours des clients, puisqu'on a annoncé ce rachat, extrêmement positifs, qui sont rassurés de voir qu'une société comme Menker rejoint une entreprise comme De Capos, dont notre capacité d'investissement va être sur la durée, puisque c'est des gros investissements, et on n'a pas tout à fait la même logique qu'un fonds d'investissement, qui était d'ailleurs détenu, que détenait...
Le but, c'est vraiment développer.
Donc nous, c'est vraiment développer, construire. Donc on va pouvoir combiner donc la puissance des deux. Il y a un enjeu autour de la cybersécurité. Ouais. Vous savez qu'on a annoncé dernièrement le lancement d'une offre de cloud souverain avec un consortium d'une société qu'on appelle NumSpot. Donc là aussi, on va pouvoir...
Et Guillaume Poupard, il faut le rappeler.
Ancien directeur de l'ANSSI qui nous a rejoint. On a Dominique Pont aussi.
Qui est le
patron des cliniques sur Toulouse et qui a développé donc l'espace numérique de santé pour l'État qui nous a rejoint. Donc on a deux personnalités qui, je pense, ne pas avoir besoin de dire qu'elles ont vraiment chevillé au corps la notion de confiance numérique, la notion de souveraineté. Et si elles rejoignent une entreprise comme De Capos, c'est justement parce qu'elles pensent qu'aujourd'hui c'est là où elles peuvent réussir le fait de pouvoir enfin avoir des acteurs souverains. Et donc dans le domaine de la santé, on a besoin d'acteurs qui vont pouvoir investir de manière à pouvoir libérer du temps pour les médecins pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier et puis utiliser la data de manière à pouvoir accélérer les bénéfices pour les patients.
Utiliser la data, puis je pense aussi avec ce que va mettre en place NumSpot. Alors vous le faites avec Bouygues Télécom, avec... Alors,
NumSpot, c'est un consortium avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, DocaPost, Dassault Systèmes et puis Bouygues Télécom.
Parce que justement, on sent aussi que dans ces hôpitaux, souvent, il y a un manque de sensibilisation, certes, autour, je parle de cybersécurité, autour de la cyber, autour de la data, mais surtout, on voit un manque de méthode, d'organisation, et c'est là où il faut un acteur qui connaît bien le monde du numérique, qui connaît le monde de la cyber.
Et puis, c'est une transformation importante à opérer, mais aujourd'hui, on pense qu'en effet, en utilisant toutes les données, toute la data, donc c'est vraiment le positionnement de DocaPost, c'est de dire aujourd'hui, toutes les données qui sont disponibles dans le monde de l'hôpital, on va pouvoir l'utiliser, la traiter, de façon à pouvoir accélérer l'amélioration du traitement pour les patients. Donc c'est vraiment un axe fort.
Nous étions avec Tech & Co et Tech & Co Business au CES il y a 15 jours, là tout juste. On parlait beaucoup de e-santé, on voit le bien-être qui est en train d'évoluer vers la e-santé, mais on voit toutes ces solutions qui devraient nous faire réfléchir sur nos systèmes de santé. Alors aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a des solutions qui marchent mieux parce que aller voir un médecin, ça coûte cher, donc on fait un peu pas de l'automédication, mais au moins on peut vérifier ses constantes, et puis le jour où ça va moins bien, c'est là qu'on va voir le médecin. Bon, nous c'est un peu différent parce qu'on se fait rembourser, enfin il y a notre système de sécurité sociale. Est-ce que selon vous, il faut vraiment qu'avec ces technologies on réfléchisse au moment où on était en plein dans les assises de la médecine où on disait voilà, il faut revoir un peu le rôle des médecins, la grève des médecins qui disait on a trop de paperasse, et justement ce numérique on doit le pousser davantage, non?
On doit le pousser, enfin j'espère que ça ne vous est pas arrivé, mais on a tous vécu le fait de pouvoir voir un médecin qui nous redemande X fois de refaire des analyses médicales qu'on a déjà faites. Donc il y a un gaspillage qui est important aujourd'hui au niveau de la santé. Et une fois encore, libérer du temps pour que les médecins puissent se consacrer sur leur vrai métier qui est de soigner les patients. Et on a vécu dernièrement des crises en termes de cybersécurité, on l'a vu sur des différents hôpitaux, le dernier c'est l'hôpital de Versailles. On voit bien aujourd'hui qu'il y a aussi une transformation qui doit s'opérer pour aller dans le monde du cloud, et donc c'est une transformation importante où là il y a besoin d'acteurs souverains, solides, robustes, pérennes, qui soient capables d'accompagner ces hôpitaux dans cette transformation.
Et là on voit bien ce lien donc avec NumSpot que vous avez lancé. Alors dont les premiers services, ce sera l'année prochaine.
Fin du premier semestre, on va lancer les premiers services. On va annoncer prochainement la création. La société sera réellement créée. On va annoncer d'ailleurs la nomination de son patron. Et on est parti. Et voilà. Et puis, De Capos va apporter en combinaison de tout ça. On va additionner tout notre savoir-faire autour de la dématérialisation des différents process, parce que c'est vraiment un des cœurs de métier. On va pouvoir ajouter la signature électronique, coffre-fort. Donc, on va pouvoir offrir cette gamme-là. Et la combinaison de Menker et de De Capos va permettre d'avoir un acteur vraiment leader sur le marché français.
Est-ce que vous avez, alors là on voit ce secteur de la santé, alors qui est encore petit aujourd'hui chez De Capos, par rapport aux 825 millions d'euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a d'autres secteurs où vous dites tiens là il faut qu'on accélère dans le domaine évidemment de l'administration, dans le domaine...
C'est clair, nous on est focalisé sur quatre secteurs de marché, la santé, le secteur de la banque et l'assurance, où il y a un enjeu aussi sensible, très régulé sur les données. Le marché du secteur public, où là aujourd'hui, on accélère aujourd'hui en partenariat avec l'État pour pouvoir accélérer la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Et on travaille à la fois sur l'État, mais on travaille aussi sur les collectivités territoriales, qui ont aussi un enjeu majeur. Et puis le dernier, c'est vraiment d'aider les ETI et les PME à accélérer leur digitalisation avec des offres packagées. Donc c'est vraiment le focus qu'on a sur ces quatre secteurs de marché. Et les trois premiers sont des secteurs où la donnée est extrêmement importante, sensible, marché régulé, sur lequel il y a besoin d'avoir des acteurs de confiance comme de Capost.
Bon, je crois que c'est la première fois qu'on vous reçoit cette année, Olivier Vallée, mais c'est pas la dernière. Parce que
j'espère bien. Ça fait plaisir.
Beaucoup d'actualités autour de Decapost. Merci d'être venu nous voir. Donc, on le rappelle, un Decapost qui rachète Maincare, donc un gros acteur dans le domaine de la télémédecine, de la coordination des soins, de la gestion administrative, qui travaille avec plus de 80% des CHU et CHR de France. Vous voyez, notre santé est un peu entre vos mains quelque part. Enfin, pour ceux qui fréquentent les CHU, merci d'avoir été avec nous. Et puis donc, rendez-vous à la prochaine évolution de tout ça. Merci Olivier Vallée d'avoir été avec nous. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler d'accélérateur du numérique avec le responsable des PME chez Amazon.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Vous savez, sur BFM Business et notamment dans Tech & Co Business, on a bien parlé de cette accélération numérique pour toutes les entreprises, les grandes mais aussi les plus petites. Et c'est justement le but de l'accélérateur du numérique, qui est une initiative d'Amazon qui fête ses 2 ans, plus de 35 000 entrepreneurs formés déjà au digital. Et on va en parler avec Clara Jetzel. Bonjour.
Bonjour.
Clara, merci d'être avec nous, responsable service PME chez Amazon. Alors, racontez-nous un peu comment est venue l'initiative. Enfin, le but, oui, c'est de numériser davantage. Alors, évidemment, quand on s'appelle Amazon, c'est on va parler de e-commerce, mais le but, le premier objectif, c'est quand même de dire le numérique, c'est important, on l'a vu à travers le Covid, et il faut continuer à accélérer.
Bien sûr, ce que nous avons vu, nous, chez Amazon, c'est qu'il y avait un retard de la digitalisation des PME. Aujourd'hui, il n'y a en France que 20% des entreprises PME, TPE qui disposent d'un site e-commerce. Donc, on est parti de ce constat et on a bien évidemment conscience que nous avons une expertise que nous pouvons utiliser et mettre à disposition de ces entreprises pour les aider.
C'est quoi pour vous les freins qui font que ces entreprises, parce que quand même aujourd'hui, surtout après l'épisode Covid où on a bien vu, et puis on a eu plein de témoignages de gens qui ont dit je ne connaissais pas du tout, je me suis lancé, je vends, maintenant c'est une de mes activités. C'est quoi les freins, selon vous, quand vous allez voir les entreprises? Ils ont l'impression qu'ils vont se lancer dans de gros investissements, un univers technologique complexe, qu'ils n'ont pas les compétences, c'est ça?
Elles ont conscience, ces chefs d'entreprise, ils ont conscience de l'importance du digital pour leur propre développement, mais ils ne savent pas par quel bout le prendre. Ouais. Un quart d'entre eux exprime le besoin de se faire accompagner.
Alors aujourd'hui, je dis, ça souffle vous soufflez les deux premières bougies. Oui, ça fait 2 ans, 35 000 entrepreneurs. Comment les former? C'est essentiellement vraiment pour les tourner vers le e-commerce. Et alors, c'est quoi les premiers pas? C'est déjà monter leur site. Quand je suis un commerçant, quelles sont les questions que je vais me poser? Parce que ce que l'on veut, c'est oui, c'est bien de monter le site, mais après, il faut le faire vivre, il faut l'accompagner. Donc, il y a de la formation aussi auprès du
l'objectif, c'est précisément de leur donner les outils, les compétences pour décider de comment ils souhaitent se lancer sur Internet, se lancer sur le e-commerce. Donc l'objectif, c'est de les former sur tous les sujets qui touchent au numérique. Nous avons 120 modules de formation qui sont à leur disposition gratuitement sur l'accélérateur du numérique et qui touchent tous ces sujets. Alors c'est extrêmement concret, extrêmement pratique. Ça parle de comment créer son site internet, ou alors de comment se lancer pour vendre sur une marketplace. Ça parle de la logistique.
En se faisant accompagner, en disant voilà, là vous pouvez faire appel à un tel type de développeur pour vous aider. Enfin
c'est avant tout leur donner les outils et ce sont des formations, ce sont des modules de formation, des vidéos courtes de quelques minutes. Ça peut être des webinaires, donc des conférences en ligne. Ça peut être aussi des ateliers de formation intensive que nous faisons soit de manière digitale à distance, soit de manière physique où nous organisons vraiment des ateliers tous ensemble à la rencontre des entrepreneurs. Et l'objectif, c'est vraiment de les former sur tous ces sujets-là pour leur donner les clés et les aider à prendre des bonnes décisions sur la manière dont ils veulent se lancer.
Et est-ce que vous pensez que parfois, il faudrait pas prendre un petit peu de recul et leur dire, attendez, ce que vous allez faire, voilà les outils, vous allez avoir des outils pour mettre votre catalogue en ligne, des outils pour mettre l'ergonomie de votre site, pour la fidélisation client, pour le paiement, pour tous ces vraiment toutes les étapes, pour la livraison, enfin tout ça, mais leur expliquer que tout ça, ça va transformer un peu la chaîne de valeur de ce qu'ils créent, ça va complètement transformer leur business model. Est-ce que c'est pas un peu de ça qu'ils souffrent aussi, c'est qu'ils ils se rendent pas compte que vendre ça reste de la vente en ligne par rapport à la vente physique, mais que derrière c'est en train de changer pas mal de choses dans leur logistique, parce qu'il y aura du retour, parce que tout ce genre de choses. Est-ce que c'est pas ce qui manque parfois un peu à ces, comme explication en tout cas?
Très clairement, ce que nous avons aussi pu constater, c'est qu'il y a des niveaux de maturité et de sensibilisation aussi au sujet qui sont très différents en fonction des chefs d'entreprise. L'accélérateur du numérique, ça propose des formations, des outils, des éléments de compréhension pour tous les types de maturité et d'avancement de ces chefs d'entreprise. Il y a des gens qui sont effectivement de grands débutants, effectivement qui ont besoin d'avoir les premières clés, les premières notions de base. Il y a des chefs d'entreprise qui sont déjà très avancés, qui ont déjà eux-mêmes lancé un site de vente en ligne et qui viennent chercher plus des outils de perfectionnement. Ouais. Je pourrais vous donner un exemple de, par exemple, Audiswine, qui est une des entreprises avec laquelle que nous avons accompagné, qui avait déjà lancé son propre site de vente en ligne et qui est venu chercher des réponses à des questionnements sur le référencement et sur l'amélioration de l'expérience de navigation et de conversion sur son site.
On
a tous ces niveaux de maturité et notre objectif, c'est de pouvoir accompagner tous les chefs d'entreprise dans les différents moments de la vie de leur entreprise et à ces différents moments de compréhension.
Alors je dis juste quelques chiffres, plus de 35 000 entrepreneurs déjà formés au digital, 85 millions de produits, 150 produits par minute, donc c'est en croissance de 50% par rapport à 2020, réaliser plus de 6 millions de ventes. Alors là on est dans les chiffres 2021-2020, mais on imagine qu'aujourd'hui ça s'est encore accéléré. Qu'est-ce que vous ressentez aussi au niveau les prochaines formations? C'est vrai qu'aujourd'hui dans le domaine du e-commerce, on parle beaucoup de commerce équitable, de ce que j'appelle le re-commerce, le reconditionnement, les produits. Est-ce que ça aussi, on doit l'enseigner, mais est-ce que ça, vous sentez que c'est un vrai besoin de la part pour ces commerçants aujourd'hui?
Alors, nous, ce que nous faisons, l'objectif de l'accélérateur du numérique, c'est de fournir des contenus qui répondent aux besoins de ces entrepreneurs. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est aller à la rencontre de ces entrepreneurs dans les territoires. Et ça, nous le faisons grâce à nos partenaires que sont la French Tech Grand Paris, Femmes des Territoires et le réseau Entreprendre. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre dans les régions, comprendre les nouveaux besoins qui émergent, qui sont exprimés par ces chefs d'entreprise, et enrichir les contenus des formations que nous mettons à leur disposition avec l'accélérateur du numérique pour ces chefs d'entreprise.
Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent dire à... Parce que ceux qui nous écoutent sont un peu alertés sur le numérique, mais s'ils veulent renseigner certains de leurs proches dans leur écosystème, il faut aller où, là, aujourd'hui, pour accéder à l'accélérateur du numérique?
L'accélérateurdunumérique.fr, c'est extrêmement simple, qui donne accès à ces 120 modules de formation de manière gratuite. On s'inscrit, on crée un compte, on a accès à ces formations et on se laisse porter.
Merci Clara Jetzel d'être venue nous parler de tout ça, responsable service des PME chez Amazon. Merci de autour de cet accélérateur du numérique et qui a déjà aidé près de 35 000 entrepreneurs formés au digital. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va partir en région bordelaise, retrouver Nicolas Leroy-Fleuriot, c'est le PDG de Kéops Technologies.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Voilà, comme promis, on part à Bordeaux avec l'une des belles entreprises françaises dans le domaine du numérique, Kéops Technologies, son PDG Nicolas Leroy-Fleuriot. Bonjour Nicolas.
Bonjour Frédéric, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Oui, c'est les aléas, on va dire, cette semaine était un peu compliquée sur l'ensemble de la France. Alors je le disais, Kéops Technologies, belle entreprise, plus de 600 salariés, 13 agences partout en France, 8 data centers, 5 en France, un peu moins de 130 millions de chiffres d'affaires en 2021, avec une croissance de 8%. Vous êtes un acteur du cloud, de la souveraineté. On va revenir justement par rapport à cette souveraineté, parce que le cloud c'est bien, mais la couche du dessous, c'est-à-dire la messagerie, la plateforme collaborative, vous appelez ça Made in France, c'est ce que vous avez lancé. Mais juste un mot avant de parler de tout ça. On vous avait quitté cet été, il devait y avoir une session avec des fonds. Ça ne s'est pas fait. On repart d'un nouveau pied, là, aujourd'hui, avec Kéops.
Oui, si on peut dire un nouveau pied, en tout cas, on va poursuivre dans la continuité avec évidemment, une dynamique qui est reparti à fond la caisse. Je reste à la tête de l'entreprise. J'étais probablement un peu trop jeune pour prendre ma retraite. Donc, voilà. Ce sera pour plus tard. Finalement, avec le recul, je ne suis pas si pressé que ça.
Eh bien, on est content de vous retrouver, en tout cas, sur le plateau de Tech & Co Business. Alors, je le disais, aujourd'hui, moi, je suis tout à fait convaincu par ce que je dis, heureusement. En fait, on nous parle toujours de cloud souverain. Bon, c'est bien d'avoir des data centers, c'est bien d'avoir tout ça. On se rend compte que c'est quand même compliqué face aux hyperscalers américains. Par contre, je trouve qu'on s'intéresse beaucoup moins à cette partie au-dessus. On est tous avec de l'Office 365, on est tous avec du Gmail. Et pourtant, c'est peut-être là où la souveraineté devrait se faire. Et vous osez vous lancer dans ce domaine avec cette solution Mail in France. Alors, expliquez-nous un peu ce qu'est cet environnement numérique de travail que vous destinez à être entièrement souverain. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Et puis derrière, il y a tout un des outils collaboratifs, hein, c'est ça?
C'est ça, en fait, Mail in France, c'est une marque déposée déjà à l'INPI. C'est une suite collaborative que nous avons mise au point avec un certain nombre de partenaires, mais qui sera entièrement opérée dans nos data centers français, dans nos 5 data centers en France, opérée sous la responsabilité unique de Kéops, avec un enjeu de disponibilité fort, hein, parce que vous savez que la messagerie, j'ai envie de dire, c'est core business, hein, pour une entreprise. Oui. Quand elle est en panne, jusqu'au niveau du PDG, ça va très vite jusqu'au niveau du PDG. Donc, on a des enjeux de disponibilité forts. Ça tombe bien, la disponibilité des systèmes d'information, c'est quand même notre métier principal chez Kéops, avec nos offres de cloud que vous connaissez parfaitement chez BFM Business, qui s'appelle iCloud, la gamme iCloud. Et on opère donc aujourd'hui le système d'information de plus de 250 clients. Et j'avoue que depuis 2 ans, je me disais quand même, j'ai discuté avec des homologues, des dirigeants d'entreprise, je me disais quand même, c'est quand même incroyable que finalement, on gère l'ERP d'une entreprise qui fait de la R&D. Donc tout ça est basé chez Kéops, c'est souverain, c'est opéré par vous. Je me suis toujours refusé, vous savez, à externaliser en offshore ou en offshore une partie de nos services. Tout est opéré depuis des centres de services français, avec des collaborateurs français. Mais à côté de ça, on a nos clients qui, majoritairement, comme vous l'avez dit, Frédéric, à juste titre, vont mettre leur messagerie ou la visio chez nos confrères américains. Nos confrères et néanmoins compétiteurs, oui, également, ou compétiteurs. Et là, je me suis dit quand même, quand on sait l'exploitation commerciale, hein, à minima, qui est faite des données de messagerie, quand on se dit que des services de R&D qui échangent des informations extrêmement sensibles, eh bien, ont leurs data qui sont basées chez les Américains, on se dit quand même qu'il y a une faille, il y a un cheval de Troie possible qui est très important. Et moi, ça fait quand même quelques années que je dis que les plus grosses affaires d'espionnage industriel viendront dans quelques années, on en aura connaissance, elles viendront du cloud, oui, et de nos amis américains ou chinois.
Et on voit déjà qu'il y a déjà pas mal de fuites de données. Et pour vous, c'est vraiment, enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment en plus pour lancer ça, parce qu'à l'heure où on parle souveraineté, et vous trouvez, enfin, votre analyse, là, je la partage tout à fait, hein, il manque vraiment, on est en train de se battre pour ce cloud souverain. Alors, il y a des nouvelles offres, les bleus, les sense, des alliances qui se font, on recevait tout à l'heure Olivier Vallée avec Numspot, hein, une offre aussi de DocaPost avec 3DS d'Assaut System à Outscale, mais voilà, c'est cette partie couche haute aussi sur laquelle il faut vous intéresser. Là, vous avez un vrai créneau, vos clients, ils sont et qu'ils soient dans des secteurs sensibles ou pas, ils sont tous très vous les sentez très adhérents, en tout cas à votre idée de Mail in France.
Alors, on a une première cible de prédilection qui sera nous. Alors, le lancement de Mail in France, il est aujourd'hui, hein. Vous voyez, vous ne pouvez pas être plus au cœur de l'actualité, Frédéric, puisque le communiqué de presse de lancement officiel de Mail in France sort ce jour et l'offre sera opérationnelle au mois d'avril 2023. Notre première clientèle cible, évidemment, ce sont les organismes publics. Vous savez sûrement qu'il y a une circulaire de la direction de la DINUM, la direction du numérique, qui interdit aujourd'hui aux collectivités, enfin en tout cas aux organismes publics, d'héberger leurs données de messagerie en dehors de la France. Donc, bien évidemment, cette clientèle-là, ça va être notre première cible et j'ai envie de dire, beaucoup sont déjà dans la confidence et sont à l'affût, en tout cas attendaient que nous sortions cette offre. Donc, on va maintenant avancer avec eux sur des maquettes, sur des POC pour répondre à leurs attentes. Et bien évidemment, notre deuxième cible sera, et nous sommes certifiés, l'urgence de santé sera le milieu médical. Je pense que évidemment, on a des enjeux forts de confidentialité totale et sans exception possible dans le domaine du médical, pour la gestion des dossiers patients, pour la gestion de tout un tas de d'informations liées à la personne au niveau médical, et bien évidemment les hôpitaux, les centres hospitaliers, les groupes de cliniques, les cabinets de radiologie, d'analyse médicale, les labos d'analyse médicale seront nos cibles de prédilection. Et puis, j'ai envie de dire plus largement, on vient d'en parler, je pense que toute entreprise qui fait de la R&D, qui a des informations sensibles, ne peut plus continuer aujourd'hui décemment, ça me paraît être suicidaire, extrêmement dangereux, d'échanger ces données avec un opérateur étranger, quel qu'il soit.
L'angle d'attaque, il est osé quand même, hein, Nicolas Leroy-Fleury, parce que vous attaquez à des géants. Oui. Alors il faut oser, mais évidemment, il faut être ambitieux, mais vous pensez que oui, il y a une fenêtre de tir.
Oui, il y a un enjeu, sachant que le cahier des charges, j'avais mis auprès de mes équipes il y a 2 ans. Comme je leur ai dit, il faut qu'on lance une solution, une suite collaborative. Hein, donc, Made in France, vous avez compris, c'est une messagerie instantanée, c'est un chat, et c'est un drive, et c'est une visio. Tout ça construit sur de l'open source, c'est-à-dire, c'est un outil logiciel, un outil complet, qui ne sera jamais soumis au Cloud Act, hein, puisque c'est de l'open source, entièrement sans licence et d'origine française européenne. Donc, il y aura jamais de soumission au Cloud Act. Contrairement à d'autres qui se lancent, à mon avis, et là c'est toujours risqué, à sortir des offres de suite collaborative sur la base de technologies, en l'occurrence américaines. Je ne sais pas de quoi vous savez ce que je pense. Moi, je pense que là, quand on regarde le Cloud Act, quand on connaît le Cloud Act, à partir du moment où on utilise une technologie américaine, on est soumis aussi au Cloud Act et donc à la récupération de données. Bon, là, donc ça ne peut pas arriver avec Made in France. Mais dans le cahier des charges, j'avais dit à mes équipes, c'est compliqué, je ne veux pas de révolution de l'expérience utilisateur. Oui. Mon histoire dans l'IT, hein, ça fait 35 ans maintenant que je fais ce métier, démontre qu'il y a une forte résistance au changement, et quand on est habitué à Outlook notamment, à une interface, on n'a pas envie de changer.
Oui, il ne faut pas changer l'ergonomie donc, complètement. Il faut être astucieux.
Donc, Made in France est interfacé avec Outlook. Donc, l'utilisateur, lui, n'a pas de révolution. Il pourra accéder à sa messagerie en frontale comme si rien n'avait changé, si ce n'est que tout le moteur de messagerie aura changé derrière. On a même intégré les icônes de visioconférence dans Outlook. Mm-hmm. Donc, vous voyez, on a été plus loin, là où mon confrère américain, lui, il a l'interface Outlook d'un côté et puis il a l'interface Teams de l'autre. Nous, on l'a tout intégré dans une seule et unique interface qui est Outlook, avec donc un produit extrêmement convivial et avec un environnement qui est connu pour l'utilisateur. Donc, je pense qu'on est amené à connaître un bon succès.
Assez confiant sur ce domaine. Mais merci Nicolas Leroy-Fleury d'être venu nous parler de Made in France. Donc, lancement officiel cette semaine. Je rappelle, vous êtes PDG de Keops Technologies. Merci d'être venu nous parler. Puis, allez, l'invitation, elle est lancée. Vous viendrez avec vos premiers clients, voilà, ici en plateau. Quand la période sera un peu moins secouée et qu'on pourra bouger un peu plus facilement en France. Parce qu'aujourd'hui, cette semaine, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Leroy-Fleury. Je rappelle, Made in France, une nouvelle offre espace environnement numérique souverain, messagerie souveraine, sécurisée, plateforme collaborative, messagerie instantanée, du stockage, de l'outil visio, tout ça en lien avec les messageries traditionnelles pour ne pas perdre les utilisateurs. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur BFM Business.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Voilà, deuxième partie Tech & Co Business sur BFM Business. Et puis retrouvez-nous un podcast replay sur les box opérateurs, sur la chaîne Tech & Co TV. Et là, on va s'attaquer aux crypto-monnaies. Quel regard les Français portent sur les crypto-monnaies? C'est à l'occasion de notre baromètre mensuel. Vous savez, tous les mois, on interroge 1000 Français issus de la population, mais aussi des spécialistes du numérique. On leur pose des questions sur les innovations. Cette fois-ci, c'était sur les crypto-monnaies. Et on va en parler avec Erwan Lestran. Bonjour.
Bonjour.
Erwan, directeur conseil chez Odoxa, donc notre partenaire pour ce sondage. Benjamin Grange, président de Mascaret et administrateur de l'Axel. Bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Benjamin et Victor Duclou, alliance manager chez Saigus. Bonjour.
Bonjour, Frédéric. Victor,
merci d'être avec nous. Vous allez nous apporter tous les deux vos regards d'experts. Question posée aux Français. Avez-vous déjà envisagé d'acheter des crypto-monnaies? Avez-vous confiance dans les crypto-monnaies? Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Alors, le point le plus important, l'introduction de notre questionnaire, c'était la part de Français détenteurs de crypto-monnaies. Et 6% des Français nous disent qu'ils ont déjà acheté des crypto-monnaies. 6%, c'est juste un point de moins la part de Français qui détiennent des actions traditionnelles. D'accord. 7% selon l'AMF. Donc on est à un cran en dessous, mais ça reste quand même élevé. 11% des Français nous disent qu'ils y ont déjà pensé à acheter des crypto-monnaies, mais qu'ils ne l'ont pas encore fait. Et 12% qui pourraient le faire. Ça fait un potentiel de 29% pour les crypto-monnaies. Il est plus élevé chez les pros de la tech, il est à 53%. Mais en tout cas, il y a une différence qui est notable entre ces 6% de possesseurs effectifs et ces 29% qui pourraient être des possesseurs. Mmh. On montre qu'il y a encore un écart entre le fait de vouloir être acquéreur de crypto-monnaies et passer à l'acte. Pourquoi ? Parce que la confiance est très négative dans la crypto-monnaie. Plus de 8 Français sur 10, 83%, nous disent qu'ils ont une mauvaise image des crypto-monnaies. Et on est sur un niveau de méfiance également très majoritaire chez les pros de la tech. Ça, c'est un chiffre qui doit interpeller. Pourquoi ? Alors ça, Benjamin Grange l'expliquera mieux que moi. Mais parce que souvent, les actualités grand public qui évoquent les crypto-monnaies sont négatives. Moment,
hein. Voilà, on peut imaginer que ça a un poids en cours. Là, ils sont en train de rattraper un autre, un Chinois qui travaille à Hong Kong, mais il y en a un qui risque pas mal de quelques années de prison aussi. Un autre, en plus de Sam Bankman-Fried, un autre qu'on vient d'attraper.
Et sur l'image, voilà, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des représentations négatives qui tirent l'image à la baisse des crypto-monnaies. Ce seraient des monnaies purement spéculatives, volatiles, dangereuses pour l'économie, qui peuvent servir au blanchiment d'argent, ou encore qui sont mal sécurisés ou qui sont des placements peu rentables. Globalement, donc, une mauvaise image des crypto-monnaies, tant en termes de placement que d'éthique, que de fiabilité. Donc un bilan dans l'opinion qui est aujourd'hui un peu négatif pour le passage à l'acte des Français.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on en a plus acheté. Enfin, les Français en ont plus acheté que des actions à la bourse.
Donc, voilà,
c'est
à niveau proche.
Un petit peu ça. Alors Benjamin, est-ce qu'on peut considérer malgré tout que c'est une monnaie à part entière, ou alors je vais faire le néophyte complet. Est-ce que la mode va passer?
On peut ni l'un ni l'autre, Frédéric. Je pense qu'il y a deux choses à retenir. Le premier, c'est que quand on parle des crypto-monnaies, on en parle uniquement à l'occasion des scandales. Parce que vous avez cité FTX, vous avez cité Terra Luna, mais en 2020, il y avait Quadriga. Donc en d'autres termes, chaque fois qu'on en parle, c'est pour dire ça s'est mal passé, quelqu'un a dérobé de l'argent, ou on le retrouve plus, ou c'est un schéma de Ponzi.
Et puis les débuts des crypto-monnaies, c'était le blanchiment d'argent sale, enfin c'était beaucoup.
Donc,
ça.
C'est quand même le premier point. Donc on est bien loin en fait de l'intention initiale en 2008 quand le Bitcoin est créé, que de dire finalement on va créer une monnaie un peu alternative au moment de la crise monétaire et où il y avait un doute sur la capacité finalement des pays et du système global à être pérenne dans ces conditions. Donc on est bien loin de ça. Aujourd'hui, en fait, pourquoi on achète des crypto-monnaies ? On achète des crypto-monnaies soit parce qu'on veut spéculer, donc ça veut dire qu'on retrouve en fait là toute la logique des quelques pourcents de Français qui vont s'y intéresser, soit parce qu'on veut acheter des objets ou des choses un peu illicites ou peu recommandables. Mais sinon, on n'a pas véritablement de raison d'acheter des crypto-monnaies.
Dans le monde du numérique, c'est ce que disait Erwan René.
Dans le monde du numérique.
Avez-vous confiance ? L'ensemble des Français, c'est 17%.
Ou alors on est technophile.
Les numériques, c'est 24%.
On est technophile. Et d'ailleurs, les très grandes baleines crypto, c'est-à-dire ceux qui sont pleins de bitcoin, en fait, de la première heure, c'est vraiment ceux qui ont acheté le système pour le système, parce qu'il faut voir que derrière la technologie blockchain qui est utilisée a un pouvoir transformant considérable, et en fait ils ont acheté ça comme étant un objet un peu particulier, et aujourd'hui c'est ceux qui sont les très gros détenteurs en fait de Bitcoin.
Victor Duclos de Saïus, ça veut dire que ces monnaies, elles ont des opportunités d'investissement qui leur sont propres?
Tout à fait. Dans crypto-monnaie, il y a monnaie. Et on peut considérer ces monnaies comme des devises à part entière. Et donc, de la même manière qu'on peut aujourd'hui acheter des dollars ou des euros pour jouer sur le taux de change, on peut jouer sur des crypto-monnaies. Il y a plusieurs typologies de crypto-monnaies. Il n'y a pas que le Bitcoin. Et on peut jouer dans le taux de change entre crypto-monnaies ou entre les crypto-monnaies et les devises historiques.
Et alors, la confiance accordée là aux monnaies classiques, elle est... On semble que c'est quand même pas la même que ces monnaies virtuelles. On voit dans ce que retient le baromètre d'Alexa, on n'aime pas parce que c'est volatile, c'est purement spéculatif, ça permet ou détourner de blanchir de l'argent. C'est quand même bien sécurisé. Alors ça, c'est étonnant. Je pensais que les gens auraient compris que c'était mieux sécurisé.
Alors, tout à fait. Ce qu'on disait au début, c'est que cette crypto-monnaie a mauvaise réputation. Oui. Néanmoins, techniquement, au départ, elle est née d'une idée fondatrice qui est de créer une monnaie sécurisée, décentralisée. Mmh. Décentralisée, ça veut quand même dire qu'on peut pas aller voler cette monnaie à un endroit quelque part. Et sécurisée, parce qu'elle utilise aujourd'hui des technologies qui sont avérées infalsifiables. Mmh. Et aujourd'hui, quand on a des scandales, c'est plutôt le coffre-fort qui contient la monnaie ou le portefeuille qui contient la monnaie qui est attaqué.
Oui, on a du mal parfois à en comprendre quand on dit ils se sont fait voler pour 120 millions de Bitcoin, d'Ethereum.
C'est ça.
Aujourd'hui, en fait, non, c'est pas sonnant trébuchant.
Si vous voulez investir, vous, Frédéric, vous pouvez acheter des Bitcoins et les stocker physiquement chez vous et personne ne pourra le savoir. Mm-hmm. Et c'est ça la différence.
Alors, pourquoi un tel succès alors quand même enfin, il y a quand même un peu de succès. On dit que les gens en achètent plus que des actions.
Il y a au moins deux choses. La première, et on le voit d'ailleurs dans la différence de ce sondage entre ceux qui sont technophiles et puis la moyenne des Français, forcément ceux qui sont technophiles ont acheté aussi la technologie. Et au départ, il faut bien voir que ce soit l'Ethereum, le Bitcoin et puis l'ensemble des centaines d'autres monnaies, au départ ça vaut rien. Mmh. Donc en fait, on l'achète parce que on est intéressé par la technologie et puis on l'achète aussi parce que ça vaut rien et on se dit demain ça peut valoir un petit peu plus. Bon, faut bien voir que chaque fois que ces monnaies ont commencé à croître, il y a eu une appréciation de leur cours pour beaucoup d'entre elles. Donc, il y a un petit espoir spéculatif que de dire, on va acheter un peu ou un peu beaucoup, et puis on va regarder ce qu'il en est, on va regarder comment ça évolue. Donc, très clairement, oui, c'est un achat spéculatif, volatile. Vous savez, c'est comme il y a quelques années, il y avait les junk bonds qui existaient, qui existent toujours d'ailleurs, et qui étaient un moyen de diversification. Donc, aujourd'hui, on veut un peu doper son portefeuille, on se dit, on va peut-être prendre quelques pourcents d'investissement dans ce.
Et fait le célèbre Elon Musk, d'ailleurs, il avait acheté pour 1 milliard, qu'il avait introduit au compte, puis ensuite d'ailleurs il a revendu, il avait fait une plus-value.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas la régulation qu'on a d'habitude, et donc forcément, ça pose aussi un certain nombre de problèmes.
Où je suis assez surpris, Erwan Estran, de Doxa, c'est sont des monnaies d'avenir seulement, alors que 23% des Français disent je ne pense pas, mais qui est seulement 32% des technophiles, parce que vous interrogez, on le rappelle avec Doxa, à la fois l'ensemble des Français et à la fois les professionnels des technologies numériques, et même eux, ils sont assez sceptiques.
Oui, les pros de la tech portent aussi un regard défiant sur les crypto-monnaies. Mais c'est à l'image de ce que disaient Benjamin et Victor aussi, c'est que pour l'instant, ça reste dans l'opinion, ces crypto-monnaies, une espèce de Far West qui n'est pas régulé et autour duquel on attend un peu un cadre. D'ailleurs, les Français, quand on leur demande est-ce que vous souhaitez que les crypto-monnaies soient réglementées par la loi,
la dernière question,
ils sont trois quarts à nous dire oui. Et ils sont 60% même à nous dire, 6 sur 10, à nous dire il faudrait qu'elles soient taxées, ces monnaies. Donc c'est quand même assez important, c'est que finalement ce que les Français attendent, mais ce qui caractérisera peut-être le saut d'un public technophile au grand public pour les crypto-monnaies, c'est qu'il y a un encadrement par la loi. Je crois que c'est en discussion à l'Union Européenne, mais ça fait partie des choses qui sont très attendues pour viabiliser ces monnaies et les crédibiliser sur l'avenir également.
Victor, justement, sur cette volonté de réglementation, c'est par là qu'on arrivera un peu à calmer un peu le jeu, avoir moins de soubresauts, même si je trouve que le Bitcoin aujourd'hui, il est monté à 60 000, j'ai même pas regardé le cours aujourd'hui.
20 000 à peu près.
20 000, voilà, on est à 20 000, mais il se maintient. Bon, il est descendu à 17, 14, mais voilà, il est pas retombé à 2 000, il arrive à une fourchette un peu qui paraît être, pour l'instant en tout cas, stable.
Stable, tout à fait. La régulation, ça va arriver. Comme toute nouvelle technologie, à un moment donné, un marché qui génère de l'argent, forcément entraîner une régulation. Maintenant, l'enjeu clé de la régulation, c'est une régulation à l'international. Comme je vous le disais au début, c'est une monnaie décentralisée, donc c'est pas une monnaie qui n'existe qu'en France ou qu'en Europe, et on ne pourra pas réguler la monnaie d'une façon locale, il faudra vraiment le penser d'une façon internationale.
Et le côté taxation aussi, vous pensez que ça, c'est...
Ça va avec, évidemment. Ouais. C'est le gros challenge qui doit arriver.
Il y a vraiment deux choses. Il y a un certain nombre de régulateurs et de pays qui ont considéré au départ que c'était un effet de mode et que donc il fallait surtout pas se pencher dessus. D'ailleurs, la France a été l'un des rares pays avec la Suisse à offrir un cadre, en fait, je vais dire légal, pour ceux qui se lancent dans des projets de crypto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lancez une start-up de crypto, vous avez déjà du mal à avoir un compte bancaire à peu près normal, et vous aviez du mal jusqu'à très peu de temps à pouvoir, par exemple, faire une levée en crypto-monnaie parce qu'il n'y avait pas de cadre, on restait dans le Far West, vous avez cité tout à l'heure. Aujourd'hui, la France, la Suisse offre ce type de choses. Donc, on peut dire que la France est probablement assez précurseur curseur là-dedans. Après, il faut évidemment aller plus loin. Donc, il y a le côté international. Et puis, il faut aussi comprendre les usages, parce que autant il y a des choses qui sont très sécurisées dans tout cet univers blockchain, autant les clés du coffre, elles restent quand même un petit peu plus vulnérables. Oui. Et c'est notamment là-dessus qu'il y a certainement des choses à opérer.
Et alors, l'un de vous a regardé aussi l'analyse sur les réseaux sociaux. Amy, c'est plus quand on parle d'une personnalité, qu'on met un visage, où c'est là on voit que les gens réagissent un peu plus.
Tout à fait. C'est une crypto-monnaie, elle n'est pas tangible, on ne la voit pas, on ne peut pas la stocker dans son portefeuille. Donc, on essaye de s'y intéresser en s'attachant à des visages comme ça. Malheureusement, c'est que les mauvaises nouvelles apporter cette image-là à la crypto-monnaie. Mais on commence à avoir aussi des belles personnalités qui ont une envie et qui essaient d'apporter des services associés à la monnaie. Mm-hmm. C'est aussi un des avenirs que va proposer certaines crypto-monnaies, c'est d'associer à une transaction un service automatique qui va permettre derrière de déclencher des transactions financière et de services.
On n'a quand même pas des Français qui craignent, qui voient un danger pour l'économie. Enfin, ça se retranscrit là dans les chiffres.
Oui, il y a quand même 7 Français sur 10 qui considèrent que ce sont des monnaies qui seront dangereuses pour l'économie.
Ah oui.
Mais le vrai sujet pour les Français, ça va être la sécurisation. Nous, ce qu'on observe quand même en tendance depuis un an, c'est que la crainte des Français sur la sécurité de leurs données sur Internet a augmenté énormément. Et c'est avec les actualités sur les cyberattaques que c'est renforcé, avec le conflit en Ukraine aussi, qui a ravivé ces inquiétudes des cyberattaques, et les craintes de sécurisation sont très élevées. Et c'est peut-être sur ce plan-là qu'il y a un vrai doute à lever, c'est la sécurité du Bitcoin et des crypto-monnaies qui pourrait rassurer les Français. C'est un point aussi sur lequel ils ont assez peu d'informations en réalité aujourd'hui.
C'est un point majeur, parce que toute la technologie qui sous-tend en fait ces monnaies, les monnaies n'étant qu'un usage en fait des technologies de type famille blockchain au sens large, elles offrent en fait un pouvoir de transformation et de sécurisation en fait d'un certain nombre de process et de transactions qui est à peu près sans pareil. On le voit bien d'ailleurs, parce que quand on veut par exemple sécuriser un flux entre un acheteur et un vendeur, quand on veut sécuriser par exemple un acte authentique, on peut avoir recours à ces technologies-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles apportent ? Elles permettent d'avoir un objet unique numérique, ce qui n'était pas possible avant. Je vous rappelle qu'avant, vous avez un objet numérique, vous faites copier-coller, vous le dupliquez N fois. Là, on a la possibilité d'avoir des copies uniques. Et donc, ça ouvre en fait un champ. Le champ de la rareté, c'est le champ de la monnaie, mais également le champ de la sécurisation des transactions. Et ce champ-là, il est absolument colossal dans sa capacité à transformer les choses. Et d'ailleurs, tous les projets aujourd'hui qui sortent sont moins sur le côté monnaie que sur ce côté sécurisation des transactions, avec, je dirais, blockchain inside. Et d'ailleurs, pour ne pas faire peur, la plupart d'entre eux ne l'évoquent même pas d'ailleurs dans leur communication, même si ça existe à l'intérieur.
Il faut davantage parler de sécurité. Merci à tous les trois. Benjamin Grange de Mascaret, Victor Duclos de Saïgus et Erwan Lestron de Dodoxa. Merci de nous avoir éclairés. Donc les Français ont plutôt une mauvaise image des cryptos. Mais justement, si vous voulez en savoir plus, tous les jours, BFM Bourse, du lundi au vendredi, il y a l'hebdo des cryptos, il y a le club des pros des cryptos. On vous donne tout un tas d'informations, et même chaque matin, dans la matinale Good Morning Business. Allez, dans un instant, on parle de la féminisation des métiers du numérique et sur l'urgence à agir. C'est tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, la chronique expert.
Et on va parler avec nos experts de la féminisation des métiers du numérique et sur l'urgence à agir. C'est un nouveau rendez-vous que l'on vous propose avec le CIGRE. Vous savez, c'est une association qui regroupe les 155 entreprises et notamment leurs patrons du digital, leurs patrons des systèmes d'information, pour réfléchir à tous ces enjeux du numérique. Et donc, on va retrouver chaque semaine, voilà, un membre ou plusieurs du CIGRE qui viendra nous parler de tout ça. Et là, on va parler de féminisation avec vous, Stéphane Rousseau, DSI du groupe Eiffage et vice-président du CIGRE. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane. Et avec nous, Marie-Anne Claire, DSI du groupe Malakoff Humanis et administratrice du CIGRE. Bonjour.
Bonjour,
Marie-Anne. Et je vais justement commencer avec vous. Pénurie de compétences, guerre mondiale des talents, on le sait. Mais voilà, rappelez-nous un peu les grands enjeux autour de tout ça.
Alors effectivement, cette problématique de féminisation s'inscrit dans un contexte qu'on connaît, mais qu'on subit pour le moment, et qui est celui de l'absence, voire de la régression du nombre de talents qui nous sont proposés, avec une lutte, j'allais dire fratricide, mais extrêmement déterminée pour aller récupérer les meilleurs talents. Alors, c'est les métiers qu'on connaît classiquement, le cloud, le big data, l'IA, mais c'est aussi des métiers plus classiques, les ingé réseaux, les ingé systèmes, sur lesquels on trouve quasiment aucune femme. Et donc, de manière un peu cynique, cette problématique de féminisation du métier, bon, même si on n'est pas très motivé par les questions féministes, on peut se dire que c'est d'abord un problème économique, c'est qu'on ne trouve juste pas la moitié de la population qu'on devrait avoir pour combler nos déficits de talents.
Je chiffrais même, hein, c'est un rapport de Rand, elle pourrait coûter 11 500 milliards de dollars de croissance, hein, parce que les projets ne démarrent pas, prennent du retard, etc.
On regarde des enjeux qu'on a affrontés effectivement pour demain, hein, où le numérique jouera une part importante, mais on commence à se poser la question de savoir si on va pouvoir être au rendez-vous, tout simplement parce qu'on n'a pas les talents. On se bat tous pour recruter les mêmes personnes, en fait.
Et on a du mal, justement, une fois qu'on réussit à trouver des candidats potentiels, à trouver aussi des candidates, hein, c'est ça le problème, Stéphane, c'est de trouver cette mixité dans ces métiers du numérique. Alors on va voir, ça vient de loin.
Hein. Ça vient de loin, oui. Quelques chiffres, hein, sur cette désaffection des femmes dans les métiers du numérique. La situation est vraiment critique. Aujourd'hui, on considère qu'il n'y a que 15% de femmes dans les effectifs des entreprises, dans les directions des systèmes d'information, les entreprises qui travaillent dans le numérique. Et le pire reste à venir, parce que dans les filières scientifiques, on n'a que 10% d'étudiantes dans toutes les filières qui mènent au métier du numérique. Ce fait démocratique est vraiment, vraiment têtu, quoi. La situation se détériore et donc devient vraiment critique pour l'avenir. Et inéluctablement...
Qu'est-ce qui manque ? On présente trop ces métiers du numérique comme des métiers techniques. C'est un peu ça qu'il faut qu'on se mette un peu aussi faut qu'on se mette à bouger aussi, hein, dans ce métier-là. Parfois, on parle un peu trop techno.
Mais je ne sais pas si la techno est un repoussoir pour attirer les femmes. Je pense que c'est plutôt de montrer l'utilité que ça peut avoir, que les métiers du numérique sont essentiels pour l'avenir de la société. On ne peut pas se satisfaire effectivement de n'avoir que 50% de la population qui s'intéresse à ces métiers. On ne peut pas se satisfaire d'un déterminisme social qu'il faut effectivement combattre. Et puis, on ne peut pas se satisfaire que les femmes ne viennent pas contribuer à ces métiers qui sont si importants pour des enjeux qui vont même au-delà des enjeux économiques, comme le numérique fait partie des solutions pour adresser les grands défis climatiques et environnementaux. Donc effectivement, il faut commencer très vite et très jeune à montrer que ces métiers-là peuvent permettre un épanouissement. Il n'y a pas de déterminisme social, il n'y a pas de plafond de verre. C'est vraiment essentiel que les jeunes filles puissent, dès leur plus jeune âge, s'intéresser à la technologie qui est créatrice.
Et donc là, il y a urgence à agir, hein, Marianne Claire.
Oui, alors effectivement, il y a urgence parce que déjà la situation n'était pas terrible, ouais. Encore quand moi-même j'étais en âge de faire des études scientifiques, mais elle s'est plutôt détériorée, notamment la dernière réforme du bac a été assez dramatique en la circonstance, puisque grosso modo on a perdu à peu près 30% des femmes, des jeunes femmes, des jeunes filles.
Et puis même les maths, si selon son parcours, à partir de la seconde, on faisait plus de maths. Hein.
C'est ça, alors on pouvait choisir de ne plus en faire, effectivement, devant cette possibilité, il y a énormément de femmes qui vont directement, mes propres enfants étaient au lycée à cette époque-là, et donc ils ont fini par ne plus trouver de filles autour d'eux, dans les différentes classes où ils étaient. Donc ces deux dernières années ont effacé littéralement tous les efforts des dizaines d'années précédentes et on en a perdu 30% des femmes dans les filières scientifiques. Donc vous le disiez, c'est pas tellement la techno finalement, c'est de manière générale les filières scientifiques et ces réformes successives qui n'ont pas forcément été dans le sens de l'acculturation générale. Donc on a une véritable difficulté en la matière pour arriver à les retrouver. Moi tu disais, Stéphane, un dixième de filles en terminale, moi c'était ce que j'avais en prépa il y a 30 ans.
Oui.
Et donc on a reculé terriblement en la matière. C'est devenu vraiment une situation catastrophique.
Et pourtant, comme on dit, ces métiers sont très larges. Enfin, voilà. Et puis, je pense qu'il y a un besoin. Je reprends toujours, moi, c'était le patron de la sécurité d'un grand groupe du CAC, de la sécurité informatique, qui me disait, mais en plus, la vision d'une femme peut apporter un plus à la façon dont ils traitaient les problèmes de cybersécurité, parce que il y avait une vision différente, une appréhension différente, et ça apportait vraiment un plus. Donc il y a ça aussi, hein, ça change beaucoup de choses.
Ouais, non, mais je sais bien. Je pense que ne serait-ce que pour des questions de justice, ce serait normal d'avoir des femmes, mais par ailleurs c'est sûr que les équipes genrées ont plus de mal à fonctionner que les équipes mixtes.
Et vous lancez, alors face à ce constat, vous lancez un appel au gouvernement, c'est ça? C'est Stéphane qui va en parler, oui.
Par exemple, oui. Ouais. Oui, avec un collectif de six organisations comme le Numéum, la Conférence des Grandes Écoles, la Société Informatique de France et la Fondation Femmes at Numérique, nous avons écrit ensemble une lettre assez vigoureuse à la Première Ministre pour la sensibiliser.
Elle-même ingénieure, il faut le rappeler.
Absolument, elle-même ingénieure et sensible à ça, pour vraiment la sensibiliser au regard de la situation critique de cette non-mixité. On ne pourra pas avoir un numérique durable, responsable et de confiance si les femmes ne viennent pas non plus y contribuer. Et en fait, nous pensons aussi, greffe, que ce déterminisme doit aussi être combattu de façon un peu structurelle. Enfin, oui. Il faut une loi. L'État stratège doit s'organiser. Il faut une loi de programmation quasiment qui permettra de...
Oui, j'aimais cette expression. La loi de programmation plurielle d'orientation des compétences.
Oui, parce qu'on est sur quelque chose de très très long terme. On est en train de préparer l'avenir des métiers, la souveraineté économique de la France et de l'Europe. On est en train de préparer les grandes évolutions environnementales, et c'est dans les 15 prochaines années. Et là, il faut une loi d'orientation. Ça ne peut pas être fait uniquement par de la communication, de la sensibilisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on milite. Hein. Et c'est, Marianne, tu le disais, il faut réinstaurer l'enseignement des mathématiques à l'école. Il faut même commencer plus tôt. Il faut développer une sorte de cursus d'humanité numérique dès le plus jeune âge, hein, dès l'école primaire. Il faut avoir des campagnes nationales, et ça aussi le gouvernement peut le faire. C'est à l'État d'avoir des campagnes nationales de sensibilisation, et puis aussi peut-être avoir des aides financières pour les jeunes filles qui se destineraient, des bourses, etc. pour
parce qu'en plus on voit que quand il y a des initiatives qui sont lancées, ça marche plutôt bien.
Bien sûr.
Voilà, il faut les pousser davantage. Et d'ailleurs, il y a des premières assises du numérique. Ce sera le 16 février. Alors ça va se dérouler à Bercy, hein, c'est ça. Et donc on va parler de tout ça évidemment.
Alors
Marianne,
c'est les premières assises nationales de la féminisation des
métiers.
C'est plus banal. Ouais, effectivement, Bercy, le ministère des Finances nous fait l'honneur de nous accueillir dans l'objectif de traiter la question de face à l'urgence, que doit-on faire, hein. La question que vous posez, qui est pas simple à répondre, donc on se réunit tous ensemble pour essayer d'y réfléchir. Le tout organisé par le collectif de Femmes at Numérique, qui a vocation à animer l'écosystème qui se préoccupe sur ces questions. Donc l'idée, c'est d'interpeller le gouvernement pour nous proposer des solutions. Là où nous, on a des idées, mais quelque part, c'est quand même ça.
Oui, mais enfin, des idées qui sont assez claires. Hein,
voilà, je pense qu'on sait assez bien. Alors, on ne décidera pas leur place, mais on sait assez bien les endroits où on peut appuyer. Et donc, les deux ministres sont conviés. Jean-Noël Barrot, qui est ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, et Isabelle Rome, qui est ministre déléguée auprès de la Première ministre sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, sont invités et interviendront pour essayer de nous donner des orientations et qu'on puisse échanger avec eux sur ces enjeux.
Eh bien, on espère qu'on fera un point dans un an. On verra si tout ça a bougé. En tout cas, on sait que tout le monde essaie de dynamiser tout ça. Merci à tous les deux, Stéphane Rousseau, DSI du groupe FH, vice-président du CIGREF, Marianne Claire, DSI du groupe Malakoff Humanis et administratrice du CIGREF sur cette féminisation des métiers numériques. Il y a, vous l'avez compris, urgence à agir, mais on en parle suffisamment souvent ici même dans Tech & Co Business. Et je le rappelle, un nouveau rendez-vous avec le CIGREF. On aura régulièrement, chaque semaine, des DSI qui vont nous parler de tous ces sujets techno, moins techno, sur l'emploi, les talents, sur la transformation des business models. Voilà, il y a beaucoup de sujets dont on va parler ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit sur BFM Business. D'ici là, podcast, replay, Tech & Co TV si vous nous retrouvez sur les box opérateurs. Excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.